RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour 180 minutes de discussion et de débat en direct sur RMC et RMC Story. C'est donc l'heure des GG, des grandes gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Les grandes gueules avec aujourd'hui la prof d'histoire géographie Barbara Lefebvre, bonjour.
Bonjour, je vais en profiter pour dire un petit bonjour à Gaëlle de la société CDA Carrosserie parce que j'ai eu besoin de faire des petites réparations et j'ai eu un véhicule de courtoisie.
C'est pas toi qui as touché,
on t'a touché. Non, exactement. Et c'est Gaëlle qui est venue m'amener la voiture et donc je le lui ai rendu hier. Et je veux vraiment m'excuser parce que j'ai pas eu le temps de nettoyer la voiture qu'ils m'ont prêtée. Et comme on est allé faire des balades dans les bois avec mes chiens, on va dire que ça sentait le chien mouillé dans la voiture. Donc je m'excuse parce que Gaëlle était très sympathique. Donc il a dû rouler à quelques temps pour ramener la voiture au garage. Et je suis désolée, ça devait sentir le chien mouillé.
Il est avec nous, Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise du Touquet. Bonjour Emmanuel.
Eh ben, bonjour à tous. Il est pas trop tard pour faire des vœux. C'est un peu minuit moins 5. Moi, je souhaite bonne année à un ami des Grandes Gueules, qui était une grande gueule avant les Grandes Gueules, puisque c'est un grand ami de ma famille, il s'appelle Jean. Et dans les années 70, il s'en était pris à un arbitre de foot, car il supportait l'équipe où jouaient mes frères au foot localement. Et il avait eu une sanction extraordinaire en qualité de grande gueule. Il avait été interdit de terrain pendant un an.
C'est un poète.
Voilà. Il a eu un cancer en 2024. Il a remonté la pente en 2025. Jean, je te souhaite une bonne année 2026.
Et puis nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot. Bonjour mon cher Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Les vacances, n'oubliez pas les vacances bel en bras, hein. Le gagnant c'est tout à l'heure à 11h20, édition 11h20, il faut vous inscrire pour gagner un séjour all inclusive premium d'une valeur de 2000 € dans les clubs et hôtels bel en bras, 45 destinations, mer ou montagne, c'est vous qui choisissez. Vous avez juste envoyé vacances par SMS au 732 16, c'est le tout compris premium offert par bel en bras. À vous de jouer, à vous de gagner, tirage au sort tout à l'heure à 11h20. Nos sujets de discussion aujourd'hui, Marion Maréchal qui sera dans les GG tout à l'heure, elle raconte sa vie, son parcours politique. Si tu te sens Le Pen, c'est aux éditions Fayard. On évoquera l'Iran. Est-ce que Donald Trump doit taper en Iran? Le voyage de la honte de Ségolène Royal à Alger. Elle n'a pas évoqué le sort de Christophe Glaize. Premier sujet de discussion, c'est la suppression des postes d'enseignants. Inévitable, parce qu'il y a moins d'enfants dans les classes. 32-16 pour en parler avec les GG. C'est le gouvernement qui, au départ, avait annoncé 4000 suppressions. Finalement, on est, attention, c'est précis, 3256 suppressions de postes d'enseignants.
Néanmoins, les syndicats sont vent debout contre la suppression de ces postes. Pourtant, le bon sens prime du côté du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Geffrey, qui dit, vous voyez, entre 2015 et 2024, le nombre d'élèves a baissé de 8%. Ça représente quand même 520 000 élèves en moins. Donc, il dit, si on suivait vraiment l'évolution démographique, il faudrait supprimer entre 8 000 et 9 000 postes de professeurs. On en supprime moins de 4 000. Donc, on suit quand même la courbe de baisse démographique et comme ça on fait aussi des économies. Je rappelle que le premier poste budgétaire de la France, c'est l'éducation nationale. Oui, mais les syndicats disent c'est dommage, on pourrait profiter de cette baisse de la démographie, c'est une opportunité pour réduire le nombre d'élèves par classe. Et les syndicats voudraient atteindre des 18 élèves par classe en 2034, profiter du fait qu'il y ait moins d'élèves, on garde les profs. Mais bon, tout ça, bien sûr, a un coût. Je ne rappellerai pas que la France est endettée et qu'elle cherche à faire des économies. Alors, quelle est la bonne logique? Est-ce que c'est celle du ministre qui dit quand même il faut réduire le nombre de profs ou celle des syndicats qui disent on ne touche pas aux effectifs?
On va mettre les pieds dans le plat dès 9h du matin parce que compte tenu de la situation des comptes publics qui est absolument dramatique, on s'achemine vers ce qu'on appelle une cessation de paiement dans le monde des entreprises. La cessation de paiement, c'est quand la banque vous coupe le robinet. Là, un jour, l'État et toutes les structures publiques peuvent ne plus avoir de prêteurs. Je me souviens d'un ami impécunieux qui disait dans les années 80, c'est pas grave, tant que j'ai des chèques, j'ai de l'argent. Mais là, l'État, s'il n'a plus prêteur, c'est dramatique. Donc, concernant l'éducation nationale, moi, je vais dire quelque chose qui ne fera pas plaisir, mais ceux à qui ça ne fait pas plaisir, ils vont y réfléchir. Il faut absolument que l'éducation nationale soit pourvoyeuse d'économies, car c'est à peu près 90 milliards d'euros quand on inclut les pensions. C'est un des plus gros postes, un des plus gros gisements d'économies de la France. Il faut effectivement maintenant aller en sens inverse, même si ça pose des problèmes éducatifs. On n'en est plus là quand on parle de la faillite, de ne plus pouvoir payer les retraites, de ne plus pouvoir payer l'armée et défendre notre pays. Il faut réduire le montant de l'éducation nationale et il faut augmenter donc le nombre d'élèves par classe. Moi, j'ai fait mes études dans les années 70 et 80. On était 35-40. Ça m'a pas empêché de faire ma vie.
Barbara, économie oblige.
Non. Les syndicats exagèrent un petit peu dans la mesure où on est déjà sur une moyenne de 21 élèves par classe aujourd'hui en France. On
a 21 par classe en moyenne.
En moyenne. Alors c'est vraiment une moyenne parce que, voyez, moi, par exemple, il y a des classes où j'en ai pratiquement 18-19 parce qu'on a eu effectivement à un moment on nous a rajouté une classe, donc on a pu réduire les effectifs.
Au collège, là, tu
parles. Oui, au collège. Oui. Et puis il y a d'autres classes où on est pratiquement 27. Donc c'est très aléatoire. Personnellement, je l'ai déjà dit ici, que on m'en mette 30. Qu'on m'en mette 15, qu'on m'en mette 40, ça me fait pareil, moi.
Ah bon? D'accord. Alors, ah merci, oui. Merci.
Ça s'appelle la gestion de classe, déjà, premièrement.
Non, mais attends, c'est intéressant ce que tu dis, Barbara, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on entend régulièrement en disant le problème, c'est qu'il y a trop d'élèves par classe, on ne peut pas bien enseigner.
Attention, quand il s'agit de faire un cours de langue, voilà, où tout le monde doit s'exprimer à l'oral, évidemment, si on est 30, 35, tout le monde ne peut pas parler. Quand vous avez besoin de faire des TP en physique, en SVT, on fait déjà des demi-groupes, oui, ou des tiers. On fait même chez nous, dans mon collège, on fait ce qu'on appelle des triplettes. C'est-à-dire que la classe, elle est divisée en trois, précisément. Donc, ça fait des complications d'emploi du temps. Mais il faut que dans les sciences, dans les disciplines où il y a nécessité de s'exprimer à l'oral, là, on est des petits groupes. Mais excusez-moi, en histoire géo, en lettres, en français, etc., on peut être à 30 élèves par classe parce que si on sait faire travailler les élèves, on peut faire travailler les élèves, faire travailler les élèves par groupe. Il y a des profs qui font des îlots. Il y a toutes sortes de pédagogies alternatives qui vous permettent de faire travailler les élèves. Je l'ai déjà dit ici et tu l'as dit. Moi, ma grand-mère qui a été à l'école de l'autre côté de la Méditerranée, oui, ils étaient 45 par classe. Je vois encore les photos de classe de ma mère dans les années 50. Ben, excusez-moi, hein, ils étaient une ribambelle.
Oui, mais il paraît que les enfants étaient plus sages à l'époque, plus faciles à tenir.
Non, c'est-à-dire qu'ils avaient des enseignants. On respectait un peu plus l'autorité et puis il y avait des enseignants qui avaient de l'autorité. Mais je suis désolée, c'est pas vrai. La gestion de classe, ça pose pas de problème.
Donc, moi, j'ai
affaire à des élèves d'aujourd'hui et ça moufte pas, c'est tout. Voilà.
Ça, bon. On imagine.
Mais non, mais et je tape personne et c'est pas la chichotte, mais tu moufte pas.
Juste pour revenir au cœur du problème, parce qu'Emmanuel pointait le budget, le monstre éducation nationale, il faut faire des économies. Donc, est-ce que ces suppressions sont justifiées?
C'est pas des suppressions, déjà, c'est des non-renouvellements de postes. C'est beaucoup plus dans le premier degré que dans le second degré, parce que justement, dans le second degré, ils sont conscients de la nécessité dans certaines disciplines. Voilà. Maintenant, excusez-moi, moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on dégraisse sérieusement dans les bureaux. Parce que c'est comme au ministère de l'Agriculture, hein, le rectorat, les inspections académiques, ça y va, le fonctionnaire garde-papier. Sur le terrain, nous, on manque, dans mon collège, on manque de pions. On n'a pas assez d'aide éducative pour les élèves en situation de handicap. Quand il y a un prof qui est malade, il n'est pas remplacé. Donc excusez-moi, mais l'acteur de terrain, on est toujours souvent un peu ric-rac, voire en sous-effectif, notamment dans la vie scolaire, ce qui pose un grand nombre de problèmes. Maintenant, je peux comprendre qu'avec une baisse démographique, on mette pas davantage de postes au concours. Moi, ce que je voudrais, c'est surtout des profs bien formés, des concours qui envoient sur le terrain des profs formés, qu'on arrête avec les contractuels qui font des speed dating au rectorat. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire avant de supprimer autant de postes. Mais bon.
Déjà, moi, je vais répondre à Emmanuel. Je pense qu'Emmanuel m'inquiète un peu. Emmanuel, c'est la vieille France. Alors, je ne vais pas dire rance pour être poli. Mais enfin, préférer l'armée, mettre de l'argent dans son armée plutôt dans son éducation, je trouve que déjà, c'est une catastrophe. Déjà, intellectuellement, j'arrive pas à comprendre ça, surtout que t'es papa. J'imagine bien qu'à un moment donné,
je t'aurais fait marcher ou pas,
hein. Oui, je pense que je t'aurais fait un joli doigt, puis à mon avis, objecteur de conscience, ça aurait fini réglé.
Et t'aurais commencé par y te couper les cheveux.
Oui, t'inquiète. Moi, je pense qu'à la fin, je t'aurais attendu, je t'aurais rasé la tête, je t'aurais mis tout dans un bois attaché à un arbre. T'inquiète pas.
Et moi, je vous aurais mis une heure de colle à chacun, parce que c'est n'importe quoi.
Ah, ouais, ça, je pense.
Non, mais, Barbara l'a dit, mais il y a un vrai sujet. L'autre fois, j'entendais des parents qui expliquaient qu'en primaire, ils ont jusqu'à 25 5 élèves dans des classes. Moi, je crois qu'on était une vingtaine aussi. Mais en fait, c'est, enfin, on n'est pas dans le même, dans la même époque. Moi, quand je rentrais chez moi, ma daronne a regardé tout ce que j'avais fait dans la journée. Elle étiquetait, elle regardait tout. Et à la fin, tu vois, j'avais un taf fermé de voir. Aujourd'hui, tu vois bien que t'as beaucoup de gamins, leurs parents rentrent tard du taf, ou les parents ont un peu abandonné ce rôle-là de,
ouais, c'est plutôt la deuxième
de surveillant solution, général, hein. En plus.
Nos parents aussi rentraient tard, ouais, le soir. Mes parents, ils rentraient à 20h. Mon grand-père, il était ouvrier, il rentrait tard aussi. Tout le monde rentrait tard. C'est juste que, ils surveillaient et il y avait de l'autorité. Après, aujourd'hui, ils rentrent à 19h ou 18h, ils surveillent rien et après ils chialent parce que leurs enfants sont sur TikTok.
Le sujet des 80 liens, moi j'entends, et Barbara a raison. T'as aussi dans l'éducation nationale l'espèce de fonds perdus qui pondent dans des endroits qui ne servent pas l'éducation des gamins. Aujourd'hui, quand tu entends. Hier, quand ils ont annoncé ça, t'avais une maman qui a dit comme ça, elle dit, bah moi, ma gamine, elle a eu 3 mois de plus de vacances cette année, elle était au collège. Bah oui, il lui a manqué 2 profs principaux. Et ben en fait, la gamine, elle s'est retrouvée à être toute l'année. Ouais, mais c'est pas que gestion, Olivier. C'est qu'à un moment donné, Barbara l'a dit, quand tu vois qu'il y a une journaliste cette dernière qui avait fait la preuve par A plus B en faisant le concours, enfin pas le concours, mais l'espèce d'entretien d'entrée, elle a été prof sans avoir aucune formation en ayant juste un bac plus 3, mais tu poses même des questions sur la qualité.
Ça, c'est autre chose.
Oui, mais c'est ça,
le recrutement.
Mettons des ronds dans la qualité.
Non, mais parce que, alors peut-être qu'il, mais pardon.
Mais ça participe à l'explication de la baisse du niveau, surtout sur des disciplines comme les maths et la physique. Excuse-moi, il y a beaucoup de contractuels. Et ça pose des problèmes, croyez-moi.
Oui, mais Bruno, tu donnes une pierre dans le jardin de ceux qui disent qu'il faut faire différemment.
Oui, différemment.
Effectivement, les profs ne sont peut-être pas assez payés. Mais justement, si tu fais des économies, si tu réduis le nombre de fonctionnaires, il y a peut-être une partie de ces économies.
Pas de prof, Olivier.
Tu peux réduire tu peux garder une partie de l'argent que tu récupères pour mieux payer les profs. Moi, je pense qu'il faut moins de profs et mieux les payer. Et d'ailleurs, c'était une volonté de certains candidats à la dernière présidentielle. Moins de profs, mieux payés.
C'est pas moins de profs qu'il faut d'abord. Non, mais prioritairement.
Pardon, si le nombre d'élèves baisse, non. Enfin, écoutez, c'est extraordinaire ce pays.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il faut faire des économies. Okay. Et dès qu'on commence à dire, ben là, il y a peut-être un poste.
Oui, pas les
il y a peut-être un poste. Ah ben non, surtout pas. Mais il y a moins d'élèves.
Non. Oui,
mais... on va pas avoir
oui,
des profs sans
on
élèves.
Est d'accord.
Tu fermes des écoles.
On est d'accord.
T'as plein de villages qui n'ont plus d'école, t'as plein de villes qui n'ont plus d'école, tout le monde trouve ça normal.
Mais parce qu'il n'y a plus d'enfants.
Oui, mais toi, non, mais quand t'habites Paris, c'est facile de dire ça. Mais quand
t'habites Paris, on ferme les classes. Tu sais pourquoi on ferme les classes d'enfants de Paris? Parce que c'est du Airbnb. Parce que les gens partent.
Oui, mais on va pas garder les classes vides. En province, il faut garder des écoles où t'as 8-10 gamins, c'est pas grave. Ça permet aux gamins de pas être délocalisés tout de suite dans leur
Olivier,
vie, enfin, à un moment donné.
Je veux bien entendre qu'il faudra moins de profs, etc. Je demande juste que d'abord, on aille regarder les bureaux, qu'on aille d'abord regarder les ronds de cuir, et une fois qu'on aura bien déjà éliminé un certain nombre de ces gens qui... certes ont l'impression de travailler, mais excuse-moi,
aussi,
voilà. Et ensuite on passera aux petits fonctionnaires de terrain, mais pour l'instant je suis désolée, je pense qu'il y a les ronds de cuir à regarder d'abord.
Mais
oui, mais c'est pas
savoir.
Ça l'annonce,
mais
c'est
Barbara,
les profs,
toi qui connais
c'est
le
pas les gens des rectorats,
toi qui connais le fonctionnement de l'éducation nationale. Quand on annonce comme ça, globalement, 3256 enseignants.
Sur 800 000 profs, hein.
Oui, bien sûr, sur 800 000 profs.
Il y a des ordres de grandeur,
mais,
hein.
Si tu veux, chacun va ramener ça à ce qu'il vit.
Bien sûr.
On est d'accord.
Bien sûr.
Et donc, est-ce qu'on va laisser toute latitude au rectorat et aux académies de dire, ben, là, on a besoin de profs, là, on n'en a pas besoin, par rapport au nombre de classes, si tu veux, où ça va être une espèce d'application
C'est appliqué selon les académies, voilà. En fonction de la démographie de l'académie. Voilà. L'académie Paris-Versailles-Créteil, même là où il y a une légère baisse démographique, c'est quand même pas la même que dans certaines régions de France. Mais ça, c'est justement le problème qu'évoquait Bruno, et à juste titre. De quel droit on valide cette idée de la métropolisation et qu'on va abandonner, qu'on va fermer des classes dans les campagnes? Moi, je suis désolée, il y a des classes dans les villages, c'est normal de garder des classes à multiniveaux et en plus des enseignants qui savent faire. C'est pas bien de fermer les écoles et d'obliger des gamins à faire 25 ou 30 bornes en bus.
Il faut
continuer à faire vivre nos villages.
Patricia est du côté des Yvelines. Voilà. Elle est à Mézières-sur-Seine, je crois. Bonjour, Patricia.
Bonjour à toute l'équipe.
J'ai bien prononcé, c'est Mézières ou Mézières-sur-Seine?
C'est Mézières-sur-Seine, 3500 habitants.
Vous êtes retraitée enseignante, c'est ça?
Voilà, je suis à la fois retraitée, donc il faut taper sur les retraités pour faire des économies, et à la fois enseignante, il faut taper sur les enseignants pour faire des économies.
Alors, est-ce que ces suppressions vous paraissent inévitables, justifiées ou pas? Dites-moi.
Alors, inévitable, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement. Justifié, pour moi, c'est difficilement justifiable. Tout le monde sait que les moyennes ne veulent rien dire. Je disais à votre collègue tout à l'heure, effectivement, il y a des classes à 35, j'en ai eu. Et puis, il y a des classes, elles sont pas seulement à 24 ou à 18. Il y a des classes à 4. Il y a des classes à 3.
C'est quoi une classe à 4? C'est quoi des classes à 4?
Une classe à 4, ça peut être une classe, par exemple, de rue, dans une banlieue éloignée. Effectivement, donc là, il va y avoir 4 élèves. Donc, on fait un méli-mélgo avec tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment dommage de considérer qu'une classe à 35, comme disait Barbara, de l'autre côté de la Méditerranée, en 80, ou avec elle y arrive très bien, c'est formidable.
Non, en 1950, etc. Je disais.
Ah oui, bon, ben, par exemple, 1950, moi j'ai travaillé également dans les années 80 de l'autre côté de la Méditerranée pendant un an en détachement, ouais. C'est pas le sujet. On a beaucoup d'élèves qui ont vraiment besoin d'avoir un souffle, et un souffle à 35, c'est difficile. J'ai fait de l'économie et du droit à 36 élèves et à 37. Et l'année d'avant, j'avais la même classe, les petites premières, ils étaient deux fois à 24. Je peux vous dire que ça change tout. Donc profitons de la messe démocratie. C'est nous qui payons avec nos impôts et on cherche à faire des économies ailleurs.
Ça ne suffit. Ah oui, mais voilà.
Alors,
c'est ça
où on les fait, les économies?
Dans un instant,
vous ne pensez pas qu'on peut les faire dans les rectorats et dans les inspections académiques,
oui,
peut-être?
Oui, mais ça, ça n'empêche pas, mais oui, là, le sujet, c'est de supprimer des profs, des postes de profs.
Mais s'il y a moins d'élèves. Mais enfin, pardon, parce que dans un instant, on va parler des policiers qui travaillent dans des conditions déplorables et qui manifestent samedi. Donc, on peut pas faire d'économie dans l'éducation nationale alors qu'il y a moins d'élèves. On peut pas payer mieux les policiers parce qu'on n'a pas d'argent. À un moment donné, on va jamais s'en sortir.
Il y a un moment donné, on va pas s'en sortir. Je pense qu'il faut effectivement considérer que l'éducation et l'instruction, c'est quelque chose de fondamental.
Mais c'est déjà le premier poste budgétaire, la France.
Patricia,
vous avez mille fois, raison. On souhaiterait qu'il fasse bon toute l'année, etc. Le jour où les retraites ne pourront plus être payées.
De Villiers, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinairement percutant. Le jour où les retraites pourront pas être payées, j'ai 68 ans, ben on diminuera ma retraite, mais on laisse à l'éducation nationale. Exactement. Et on laisse aux enfants et on laisse aux jeunes la possibilité d'être éduqués.
Pourtant,
j'y tiens à ma retraite. Je préfère franchement être un retraité avec 4 ou 5% de moins et faire en sorte qu'il n'y a pas des classes à 35.
C'est pas malheureusement, Patricia, en tout respect.
Qu'on ait des classes, il n'y a pas de tout respect. Et qu'on ait des classes, effectivement, à 25 ou 26 élèves, parce que l'éducation, c'est le poste prioritaire d'un pays. Si on n'a pas d'éducation, si on laisse les enfants faire n'importe quoi, tous les postes ne sont pas prioritaires. Bien sûr que les policiers doivent être payés, bien sûr que les infirmières, on le sait tout ça.
Donc tous les postes sont prioritaires, c'est ce que vous dites.
Mais les élèves, non. Les élèves ont le droit à une éducation de qualité.
Oui, mais Patricia, ce qui serait bien, c'est qu'ils aient des profs compétents en phase 2, parce qu'ils ont de plus en plus de contractuels, puisque personne ne veut être prof. Et pour des raisons qui ne sont pas parce qu'il y a 30 élèves ou 20 élèves, parce que des fois, même des classes de 15, il y a des profs qui arrivent pas à gérer. Voilà. Donc, il faut des profs formés d'abord.
J'ajoute un mot, Patricia. C'est pas 5%, c'est pas une modulation des retraites, ça sera la moitié de la retraite. Ça sera la faillite.
Patricia, je vous remercie d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Mais je vous en prie, Patricia, passez une bonne journée.
Merci.
À bientôt pour de nouvelles discussions, Patricia, dans les Yvelines. Avant de passer aux policiers, à la colère des policiers, supprimer des postes de profs, est-ce que pour vous c'est inévitable, oui ou non? C'est très partagé. On est quasiment à 50-50. Oui, 51. Non, 49. Et justement, samedi, après-demain, ce sont les policiers qui vont manifester. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir depuis plusieurs jours, ils envoient des photos de leurs locaux insalubres, de leurs mauvaises conditions de travail. Ils appellent les Français, c'est le syndicat Alliance qui appelle les Français à les soutenir, à défiler aux côtés des policiers devant les commissariats après-demain samedi. Est-ce que vous êtes prêts à défiler avec eux, à les soutenir? Au 32-16, que ça se passe, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les grandes gueules, avec aujourd'hui Bruno Poncet, le cheminot, l'homme de Vierzon. Nous sommes avec l'homme du Touquet, Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, et puis Barbara Lefebvre, l'enseignante des Yvelines, qui est avec nous. On va parler de la colère des policiers. Un syndicat, c'est le syndicat Alliance qui appelle à la mobilisation après-demain samedi. En fait, ce que veut faire Alliance, c'est dire aux Français: si vous aimez la police, si vous nous soutenez, venez manifester avec nous parce que on travaille dans des conditions déplorables et on a besoin de vous, citoyens, à nos côtés.
Oui, un syndicat qui publie des photos qui illustrent la colère des policiers, des photos des commissariats, les conditions dans lesquelles les policiers travaillent. Donc on voit des toilettes avec un rat à l'intérieur, on voit aussi des murs qui s'écroulent. Enfin, il suffit d'ailleurs, paraît-il, d'aller au commissariat du Touquet, qui est dans un état lamentable.
Oui, alors j'y suis allé.
En garde à vue.
Comme tout Français, je dirais,
comme tout délinquant.
J'y suis allé il y a moins d'un an. Ça m'a pas frappé, mais il y a un projet, comme le Touquet est quand même privilégié, étant City of President. Il y a un projet en cours de nouvel établissement.
Oui, mais ce projet met du temps à se mettre en place parce que la préfecture tarde, alors que le maire du Touquet, je prends cet exemple, Daniel Fasquel, lui dit, moi j'ai des locaux à donner à la police parce que je trouve que c'est indigne la façon dont on accueille les victimes qui vont porter plainte, et visiblement ça coince, c'est très long. Et c'est un peu, bon, ça c'est l'histoire de l'administration française. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aller manifester avec les policiers samedi pour dénoncer ces manques de moyens?
Bruno, tu irais ou pas?
Pas du tout.
En général, quand tu manifestes, c'est contre les policiers.
Moi, j'irai absolument pas. Et je peux comprendre leurs conditions
de travail.
Pour discuter avec des policiers régulièrement, je comprends. Et ça fait quelques années qu'ils alertent sur plein de choses. Sur aussi des frais de déplacement qui sont pas payés ou qui sont payés très en retard. La prime Gio, ils l'ont touché 6 mois après tout le monde.
Leur matériel, parfois, c'est eux-mêmes qui achètent le matériel.
Ils ont vraiment des soucis. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu as fait partie de mouvements sociaux ces dernières années, et je pense que tu vas pas manifester à côté d'Alliance déjà pour commencer, parce que moi j'ai pas entendu Alliance dire à leurs collègues policiers surtout tu ne gasses pas les paysans, tu ne gasses pas les infirmières qui manifestent parce qu'elles vivent dans des conditions difficiles, les pauvres paysans qui eux ont arrêté. Alors tout le monde dit oui, les pauvres et tout, on a bien vu les images, rapidement ça fait gazer. Donc ça va être quand même compliqué à tous ceux qui ont participé à des mouvements sociaux, c'est-à-dire quasiment 60-70% des Français ou des corporations françaises, de se dire après je manifestais avec surtout le syndicat Alliance. Moi tu me dirais les policiers, ils auraient tous un bras noir. Allez, je voudrais bien un peu leur serrer la main, j'irai faire un tour parce que alors pour te dire la vérité,
tu manifestes qu'avec les policiers de gauche.
Je veux pas, on sera pas nombreux. Mais un truc qui est sûr, c'est que par exemple, tu vois, quand il y avait les manifestations pour la réforme des retraites, moi je m'en rappelle, à chaque fois que j'arrivais, et donc tu te retrouves face à des barrages de policiers avant de rentrer dans la manif, surtout qu'on était souvent nassés, moi les policiers m'arrêtaient pour me dire « Ah, je vous ai vu, machin et tout, bon on est d'accord avec vous, et nous on n'a pas le droit de manifester ». Et je leur disais toujours, je dis « Mais à un moment donné, il va quand même faire quelque chose, parce que c'est pas parce que nous, si peu nombreux qu'on était à faire grève à l'époque, qu'allons obtenir quelque chose, si tout le monde s'y met pas, et les policiers en premier aussi en fait.
Les policiers vont pas commencer.
Barbara, tu pourrais être à leur côté samedi?
Je pourrais bien sûr, dans la mesure où déjà en tant que fonctionnaire, agent de la fonction publique, on sait dans quelles conditions travaille, je le répète, le petit fonctionnaire. Parce que c'est pour ça que moi, je m'agace souvent, notamment quand Charles s'exprime sur la question des fonctionnaires, parce qu'il globalise, il généralise. Moi, je suis désolée, mais le petit fonctionnaire, c'est-à-dire le greffier, le magistrat, même s'ils n'ont pas un statut de fonctionnaire, mais bon, c'est comme les fonctionnaires, le petit policier, Non mais t'as vu ce que c'est de travailler aujourd'hui la magistrature, les juges, ils audiencent de midi à minuit.
Aujourd'hui matin.
Avec des dossiers qui s'empilent, la greffière ou le greffier qui en peut plus, le petit policier, l'OPJ qui court partout. Moi, j'ai eu aussi comme Philippe et comme d'autres à me rendre dans les commissariats et déposer des plaintes et compagnie. Le commissariat de Versailles.
Oui, Emmanuel.
Oui, comme Emmanuel.
Je suis l'homme de Rio.
Emmanuel, pardon. le commissariat de Versailles, par exemple, il est pas en bon état. Voilà, c'est quand même, ça tient debout parce que c'est la mode. Et justement, là, à Versailles, ils sont en train de construire un petit commissariat pour la police municipale. Eux, la police municipale, ils vont avoir un truc tout, ils réhabilitent un truc tout neuf, tout beau. Franchement, les policiers du commissariat de Versailles, qui est un commissariat très important parce que c'est vraiment régional, les bureaux des fois, c'est pas en bon état, c'est catastrophique franchement. Donc je peux les comprendre. Ouais, désolé.
Ce matin, à propos de leurs conditions de travail, un policier qui disait, tu sais combien de plaintes sont en souffrance en France?
Oh là là, je t'en raconte.
3 millions.
Bah oui, rien que les miennes, elles sont déjà.
3 millions, dont celle de Barbara, dans les 3 millions. 3 millions de plaintes en souffrance. Et tant qu'on ne pourra pas travailler de manière efficace, efficiente, dans des locaux avec une informatique qui va, il dit on pourra pas. Et les Français eux-mêmes seront frustrés et seront en colère. Donc
ça fait partie aussi. Bon, moi, quand j'ai été plusieurs fois à la police, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a le système, par exemple, de la reconnaissance vocale, de l'IA, la reconnaissance vocale.
C'est vrai.
Eh ben non. Alors il est obligé, le flic, que ce soit un OPJ ou que ce soit même dans des auditions un peu plus importantes, allez, on tape. Mais je dis, mais vous pouvez pas des auditions qui pourraient durer un quart d'heure. Non, ça dure deux heures parce qu'il faut tout taper à la main. On peut pas faire avec la reconnaissance. Doigts. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, on n'a pas le droit.
Moi, je pense que les maires de France doivent maintenant se réunir pour donner les signatures à Barbara qui a toutes les solutions pour redresser le pays.
Merci à toi, Emmanuel.
Barbara 2027.
Non, mais honnêtement, on a des outils technologiques incroyables.
Vous savez quel est le budget de la police nationale?
Il fonctionne avec des vieux ordis.
Non, mais
tu verrais l'état des ordis.
Le budget de la police nationale. Parce qu'après, quand on donne des chiffres, tu parlais du budget de l'éducation nationale.
Oui,
le budget de la police nationale, c'est 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. Et c'est le contraste entre cette masse énorme d'argent et ensuite des policiers qui te disent bah, regardez l'état de nos toilettes.
Mais bien sûr.
Regardez même l'état des cellules, puisque la France est régulièrement condamnée.
On leur achète des canons à flotte, on leur achète des nouveaux flashballs.
Ouais, enfin,
à un moment donné, on leur ramenait du nouveau matériel pour anti-émeute. Par contre, les mecs, ils étaient dans les commissariats où il y avait des rats. Ah voilà, et la priorité aussi du gouvernement, là c'est bien où elle est. C'est réprimer les mouvements sociaux, et puis après la position de travail des flics.
Ton travail,
oui,
bien.
On est d'accord.
Bruno, il veut des policiers qui sont là et qui manifestent avec
parce qu'ils sont comme nous, les policiers, t'es un citoyen comme les autres. Moi je te dis, le policier, t'es un citoyen comme les autres.
Et garantir la sécurité.
Quand nous on vit des trucs dans les
Si t'as des problèmes personnels, tu seras le premier à demander à la force publique de solutionner, d'aller te défendre, d'aller retrouver quelque chose qui t'a été volé.
Je crois pas.
Oui.
L'anarchisme,
ça mène à rien.
Ouais, t'as raison. Hein, bah, voilà. Toi, tu préfères l'armée à l'éducation. Oui. Alors, toi, t'es mignon. Hein.
Oui,
t'es vraiment dans une France des années 30, en fait.
Et tu vas me présenter tes papiers d'abord pour commencer.
Je vais les avoir sur moi, t'inquiète.
Non, mais ce que je comprends pas, c'est, et pour ceux qui sont devant RMC Story, vous voyez des images qui sont envoyées par les policiers sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à aller regarder, hein. Il suffit simplement de taper le hashtag commissariat ou police et vous les aurez. Et vous voyez, et vous avez ces images de douches qui sont insalubres, de sols qui sont détériorés, de cellules qui sont, de cellules de garde à vue qui sont dans des états pathétiques, d'ordinateurs qui sont cassés, de WC qui sont,
bouchés.
Mais c'est pas nouveau parce que souviens-toi qu'il y avait Balance ton commissariat. Et à l'époque, on en avait parlé. Alors, du côté des différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, on dit, mais attendez, on a donné davantage de moyens à la police nationale. On a augmenté les crédits. Donc, tout ça, tu te demandes, mais où passe l'argent?
Oui, parce que le budget,
13 milliards.
C'est 331 euros par habitant en moyenne, donc pour la police. La moyenne européenne, c'est 286 euros. Donc, ça veut dire que la France, elle investit plus que la moyenne européenne.
Alors, où va le pognon? La réponse
à
l'État, c'est simple, c'est qu'il y a un bouchon, où il faut un déboucheur.
Voilà.
Ça passe plus parce que la justice derrière n'enchaîne pas. Donc, forcément, la police mouline, on met dans le système.
Il n'y a pas de
condamnation, il n'y a pas d'application.
Mais
bien sûr que si. Le problème d'efficience de la police, il est lié parce que le train avec les sanctions derrière ne suit pas.
Oui, mais il y a peut-être aussi des policiers qui sont occupés à des choses qu'ils ne devraient pas faire. Par exemple, la protection de certaines personnalités. Voilà, moi je te dégage la protection de certaines personnalités.
Mais je vais aller plus loin.
Et je veux juste te dire une chose sur Versailles. Même quand monsieur et madame Macron ne sont pas à la lanterne, on est obligé de mettre une voiture de police devant. Oui. Voilà, même quand ils sont pas là, je vais aller plus loin. Non.
Effectivement, je pense qu'il y a trop de policiers devant les ministères, etc. Ça, c'est vrai. Il y a aussi, je suis désolé, ces patrouilles de policiers à quatre. Aux États-Unis, le policier, il patrouille souvent tout seul. Ils sont quatre. Je vois, et parfois ils sont quatre à s'arrêter pour aller verbaliser un type qui vient de brûler un feu. Bon, voilà, je suis parfois surpris de l'organisation du travail.
Décidément,
d'abord que Monsieur Villepin, et Madame Cresson rendent leur protection policière.
S'ils rendent leur protection policière, c'est pas ça qui fera que dans les 8 jours ou 10 jours,
ça aidera.
Leurs toilettes seront réparées.
Il peut faire un don,
Décidément, on a les Yvelines en force, là. Après Patricia, c'est Jean des Yvelines qui nous appelle, qui est photographe. Bonjour, Jean.
Bonjour, les grandes gueules, et un grand bonjour à Barbara, que j'apprécie tout particulièrement sur ces remarques.
Merci, Jean.
Jean, vous pourriez aller manifester avec les policiers samedi ou pas?
Mais complètement, parce que là, l'histoire des locaux, c'est une goutte d'eau, mais c'est un symptôme. Mais quand on regarde que chaque année, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de policiers qui se suicident avec leurs armes de service, sans compter les gendarmes. Parce que là, les policiers ont le droit de l'ouvrir, alors que les gendarmes n'ont pas le droit de le faire. Hein, mais les conditions de travail de nos deux forces de l'ordre se dégradent d'année en année. Quand vous avez des policiers ou des gendarmes qui vont faire des enquêtes de 3, 4, 5 mois sur des dossiers et que derrière, la justice va dire « Bon, bah, là, vous allez, on va leur mettre une petite amende et puis vous me le relâchez alors qu'il a bossé dessus pendant 4, 5 ou 6 mois pour reconstituer le dossier. »
Voilà, et, bah, c'est le temps perdu.
Le problème, il est là. Si ça suivait derrière, il n'y aurait pas ce bouchon.
Je suis assez d'accord.
Voilà. Donc il faut qu'il y ait un minimum de suivi, donc c'est un ensemble, et là on se focalise sur les policiers, mais avant on avait les agriculteurs, et avant c'était d'autres choses, et après ça sera quoi? Peut-être l'éducation nationale, peut-être...
Ah, de toute façon,
en fait la France va à volo en fait en ce moment.
Le métier de prof, ça a été démontré, hein, en 30 ans il s'est smicardisé, hein, je veux dire, on a perdu en pouvoir d'achat de façon complètement hallucinante, quand dans le reste de l'Europe, par contre, le salaire des profs a augmenté, le temps de travail aussi, Nicolas.
C'est important de le dire aussi.
Ah, mais je suis honnête, le temps de travail.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi réfléchir sur ce fameux temps de travail. Enfin, là, à peu près tous les experts sérieux disent que les Français, d'une manière générale, on ne travaille pas assez. Pas ceux qui font déjà 50-60 heures, mais peut-être que en supprimant les 35 heures, en réaménageant le travail, en demandant aux policiers peut-être de sortir plus des commissariats aussi, parce que il y a aussi une doctrine qui veut qu'aujourd'hui, c'est une police d'intervention qu'on a mis en place, c'est plus une police qui patrouille. Bah, ça rassurera les Français de voir des policiers qui patrouillent un peu plus.
Merci à Jean d'avoir été dans les GG.
Moi, j'aimais bien quand j'étais petite voir la police dans la rue.
Merci à Jean d'avoir été dans les grandes gueules.
Est-ce
que vous êtes prêt à défiler samedi aux côtés des policiers, oui ou non? C'est la question qui est posée. Et c'est un oui majoritaire à quasiment 68%. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas avec Anaïs Inès Sainz, il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules, 10h moins le quart. N'oubliez pas les vacances, hein. Les vacances, c'est à 11h15 que vous les gagnez en vous inscrivant par SMS, en envoyant vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS 732-16, c'est les séjours Bellambra, c'est du premium et tout compris dans l'un des clubs et hôtels, mer, montagne ou campagne, 45 destinations. Vous choisissez sur le catalogue Bellambra qui vous les offre. Vous envoyez donc vacances par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Rendez-vous à 11h15. En attendant, c'est long, on s'en fout pas, il est 10h moins le quart.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Macron qui s'exprime en groenlandais puis en danois pour leur dire tout son soutien. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Ah non, on s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Emmanuel?
Non plus.
Écoutez, c'est Popcorn.
Oui, écoutons.
Kalashit nunat, tuniniagan nilak, tigunakan narsina nanilu, kalashit naminok, siuni sartik, alayi suak.
La France continuera à se tenir aux côtés du Royaume du Danemark. Nous l'étions hier, nous le sommes aujourd'hui, nous le serons demain. Voilà ce qu'a dit le président qui recevait la première ministre danoise et le premier ministre groenlandais hier à l'Elysée. Emmanuel Macron qui ne lâche plus ses lunettes de soleil. Hein. Barbara, pourquoi tu t'en fous pas?
Déjà, on m'aurait dit qu'il parlait en groenlandais, je l'aurais cru aussi, parce que franchement, non mais... C'est pareil, je crois qu'il est en roue libre. Là, je pense qu'il est en roue libre, là, entre les for sure, les il part
for
en
sure,
8.
For oui. Sure.
Moi, ce que j'aimerais juste, c'est que ça s'arrête, les lunettes. Il y en a un ras la casquette.
Bah, il a peut-être
lunettes.
Un problème à l'œil, quand même.
Ça fait 10 jours. Alors j'ai
attention,
consulté.
Attention.
Car, comme vous le savez,
docteur
Lefebvre, je suis hypochondriaque. Bref, j'ai demandé à une amie ophtalmo qui m'a dit que ce qu'il avait, donc elle m'a expliqué ce qu'il avait, là, les coups des vaisseaux qui s'éclatent et tout. Ça dure
oui,
5 jours, 6 jours.
Il
n'y a pas que ça, d'accord.
Il s'est pris une Brigitte, attends.
Excuse-moi, ça va faire 10 jours que ça dure, son cinéma avec ses lunettes. Il y en a ras-le-bol. Non, mais franchement, c'est ridicule.
Emmanuel.
Non, ridicule. Faut qu'il arrête et puis qu'il se remette au sérieux parce que...
La situation est assez grave parce qu'on a un espèce d'artiste de cabaret à l'Élysée. Il est vrai que cette situation de lunettes est totalement anormale. Il devrait y avoir une publication médicale. Il s'agit du chef de l'État. On devrait connaître les causes aussi.
Je suis assez d'accord avec ça.
On devrait connaître les causes de cette pathologie. Ça fait plutôt 2 semaines que 10 jours. Et il y a un côté show-off. La logique, si on parlait de Pompidou, de Giscard d'Estaing, le président de la République serait resté discret, ne serait probablement presque pas apparu.
Qui, eux, ont menti sur leur état de santé. Oui. Hein, on peut le rappeler, Pompidou et Mitterrand.
Non, là, je
oui, non, mais c'est parce que tu appelles...
Pompidou, on était dans un flux de communication beaucoup plus restreint. Je dirais pas qu'il avait proprement menti. On savait qu'il était malade. Mais parler en groenlandais de surcroît... C'est chercher le grotesque. Est-ce qu'il a des conseillers en communication complètement ridicules? Non, c'est très inquiétant parce qu'on est dans un contexte de tension pré-nucléaire et personnellement, j'estime que les Français peuvent être inquiets de cette situation.
Un mot quand même, parce qu'on a raconté une belle histoire à propos de ces lunettes.
Ouais, les lunettes, c'est bien.
Des lunettes produites dans le Jura, du Made in France. Le président du syndicat des lunetiers du Jura dit... C'est vraiment n'importe quoi. En fait, cette boîte, elle est d'ailleurs italienne, elle n'est pas française.
Elle a été rachetée par les Italiens.
Ce que dit Julien Forestier, donc qui est le président du syndicat des lunetiers du Jura. Je peux vous dire qu'elles ne sont pas fabriquées dans le Jura. Donc on nous a raconté un peu n'importe quoi. Et la boîte a surfé sur cette histoire. En fait, c'est plutôt un bad buzz.
Bruno.
Au-delà du fait qu'il devrait arrêter avec Google Translate, parce que là, je pense qu'il a dit un peu n'importe quoi. Enfin, tu comprenais rien ce qu'il disait. Après, rappelez-vous, ça fait des années que le président de la République française se ridiculise quand ils sont à l'étranger. Rappelez-vous, Hollande, cette tenue qu'il avait, là, il ressemblait à rien. C'était pas en Ouzbékistan, je sais pas quoi. Il avait une espèce de toque sur la tête. Ouais. Hein.
C'est vrai.
Ils ont toujours fait en fait.
C'était un cadeau. C'était pour honorer.
Je trouve juste un nez rouge pour faire le clown.
Je trouve vachement sévère. Parce que quand un chef d'État étranger vient et qu'il est reçu en France et qu'il il trouve toujours dans son allocution une ou deux petites phrases en français simplement pour honorer son hôte, c'est plutôt sympa. Là, il reçoit les premiers ministres danois et groenlandais.
C'est la globalité, Alain, c'est la globalité.
Je parle de la séquence. Après une crise, il fait une phrase dans laquelle ils assurent dans leur langue native de leur soutien.
Bonjour, il peut juste dire un mot, mais tout faire des phrases de 10 kilomètres. Il a dit 2 phrases de 10 kilomètres, c'était trop long.
J'assistais à une commémoration où il y avait Macron qui faisait un discours et le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne a fait son discours en français. Moi, je peux te garantir qu'il maîtrisait le français. Donc, cas-là, quand tu maîtrises une langue, tu peux parler sur un long temps. Je pense que Macron, comme il ne maîtrisait pas, il aurait dû leur dire, voilà, je vous dis un bienvenue, enchanté.
Puis vous savez très bien que nous avons un président qui est comédien, il adore jouer.
C'est le premier prix
de
conservatoire.
Là, hier, il jouait le danois. Voilà. Il adore jouer avec ses lunettes. Tout le monde lui a dit que ça lui allait bien, donc il les garde.
Mais qui lui a dit que ça lui allait bien? Les médias, oui, ils lui ont dit que ça allait bien.
Mais non, il n'y a pas que
l'extrême centre, les éditorialistes d'extrême centre.
Mais ça fait 9 ans qu'on a un président qui joue là, qui a bien joué.
Premièrement, j'ai pas le trouver beau, j'en ai rien à faire, je veux le trouver efficace.
Compte tenu de l'état de la France, il n'y a pas de place pour le théâtre, franchement.
Alors, on enchaîne.
Ça, c'est vrai.
Les GG, le modèle familial traditionnel n'est plus la norme. C'est face à ce constat que LFI propose d'instaurer de nouveaux droits à l'amitié. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
On s'en fout pas.
Emmanuel?
On s'en fout toujours pas.
Barbara?
On s'en fout pas.
La France Insoumise a déposé une proposition de loi donc visant, par exemple, à reconnaître légalement le baptême civil et donc les parrains et marraines qui pourraient alors avoir un rôle concret en cas de décès des parents. L'entraide entre deux amis pourrait aussi être formalisée, bref, donner un cadre légal aux liens extra-familiaux quand ils existent. Bruno, pourquoi tu ne t'en fous pas?
Parce que moi, n'ayant plus de relation avec ma famille, ce sont mes amis qui sont ma famille, donc effectivement ça me cause. Après, je me dis que dans la période actuelle, il y a peut-être d'autres trucs à gérer avant que de parler de ça, mais effectivement... des fois, tes amis, c'est comme ton sang. D'ailleurs, comme dirait Jules, c'est le S. Et donc, en fait.
Jules,
ouais, j'arrive pas à le dire, moi. Mais en fait, ouais, moi, j'entends ce qu'ils disent. Après, je trouve que le moment est pas propice. En fait, il y a d'autres choses à gérer avant, je pense. Mais bon.
Alors, c'est Emmanuel. C'est révélateur de personnes qui croient qu'on peut continuer à imprimer, à inventer, à décerner des nouveaux droits qui, naturellement, coûtent de l'argent et compliquent la vie, au final. Non, c'est pas des droits, maintenant, qu'il faut inventer, c'est des devoirs. Il faut inventer des devoirs, retrouver les devoirs des Français en France.
Mais tu veux virer des profs, j'aurai moins de devoirs.
Très, très bon.
Barbara,
elle était très bonne.
Quelle blague.
Non, mais ce qui est intéressant, et en fait, derrière cette espèce de d'annonce, d'ailleurs, elle a dit,
pour Madame
Guettet, non, je trouve ça complètement stupide.
Ah bon?
Madame, j'ai pas besoin de la loi pour me dire oui, que mes amis comptent plus que ma famille, si c'était le cas, je veux dire. Non, mais c'est n'importe quoi. Madame Guettet, de toute façon, a dit qu'elle savait très bien que sa loi ne passerait pas, etc. Bon, elle fait juste du buzz. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est son discours. Elle dit oui, parce que la nouvelle France a besoin de nouveaux droits. Parce que la famille, ça n'est plus ce que c'était. Vous comprenez, la famille n'existe plus.
C'est une réalité aussi.
Là, grand... Ah oui, ça s'appelle le grand gloubi-boulga. Et alors maintenant, le grand gloubi-boulga, alors, le père n'existe
c'est
plus.
C'est pas comme ça qu'on va faire les enfants.
Le père devient une mère, la mère devient un père, machin. Oui, l'ami, pas, hein. L'ami devient le père de substitution.
Surtout des gens qui divorcent et des cas comme non, ça, ou à un moment donné, comme
ça. En psychologie, il y a un truc qui s'appelle la figure d'attachement. Ta figure d'attachement, ça peut ne pas être ton père ou ta mère, ça peut être.
En psychologie, il y a aussi.
Oui, sinon
oui.
Ah,
vous comprenez pourquoi je gueule après? Bon, voilà. Non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a aucun sens. Et oui. Mais en fait, ça a un sens dans l'esprit des LFI. C'est la nouvelle France. Créer des nouveaux droits pour inventer des statuts légaux à des choses qui sont juste naturelles. Oui. J'ai des amis, j'ai pas d'amis, j'ai un père, j'ai une mère. Voilà. Mais eux, ils veulent inventer la nouvelle France.
L'amitié,
ces gens-là sont
gratuit.
Dangereux en réalité.
Renaud. Vas-y. Non, mais tu voulais rajouter quelque chose.
En fait, Bruno ne parle que quand Barbara parle, sinon il n'y a plus rien à dire.
Non, mais c'était pour lui répondre. Après, est-ce que c'est un intérêt? Mais je vois bien que.
Ok. Bravo.
C'était un argument de poids, ça.
Non, je crois que c'est le meilleur que j'ai eu de la journée. Et j'en aurais pas un meilleur.
On attendait le mot de la fin et on l'a eu, là.
Oui, ça. Voilà, j'ai fait. Voilà,
les GG. 40% des Français, c'est le cas de Bruno Poncet, ont déjà eu recours à la médecine esthétique ou envisagent d'y avoir recours. On s'en fout ou pas, Bruno?
On s'en fout pas du tout.
Dans le micro, c'est bien.
On s'en fout pas du tout.
Emmanuel.
On se fout de rien aujourd'hui.
Ah bah merci. Barbara.
Ah non, ça je m'en fous de la chirurgie.
Résultat d'une enquête de la société Norsat, ce chiffre monte même à 52% pour les femmes âgées de 18 à 35 ans. Bruno.
18 ans?
Moi je trouve ça hyper dangereux, moi, en fait. Parce qu'en fait, les dictats de la mode, les dictats des magazines, les dictats de plein de choses, les hommes qui perdent les cheveux, on doit tous aller faire aller en Turquie parce que ça coûte pas cher de faire des cheveux. Enfin, en fait, aujourd'hui, tu ne peux plus accepter d'avoir du bide, d'avoir un peu. Moi j'ai du bide, j'ai des cheveux qui se barrent, je fais une espèce de queue de cheval pour pas qu'on le voie. J'ai des ch'tards sur la gueule. Voilà.
Non, mais t'es beau, Bruno.
Toutes les femmes me le disent.
Et pourtant, tu te plais de plus en plus. C'est là, ton talent.
C'est le sujet. Mais en fait,
la maturité.
Et moi, je trouve qu'en fait, cette escalade.
Si on vous feriez quoi?
Pardon?
Ça fait mal. Si on offrait une opération ou quelque chose.
Mais t'as vu, regarde derrière toi.
Je ferais rien du tout, moi. Mais rien du tout, chez tout. Moi, j'ai fait une opération gastrique pour maigrir, parce que j'ai 160 kilos pour être maintenant à 107, 108. Ben, je peux te garantir que j'ai pas envie de retourner sur l'MFR. On m'a même proposé, alors moi, on m'a proposé une opération esthétique, parce qu'en fait, quand tu maigris comme moi, j'ai maigri, tu sais, moi, j'ai de la poitrine, j'ai des seins, je devrais pas en avoir, j'ai des seins.
On m'a dit,
surtout le truc, comme j'ai maigri.
Comme t'as maigri, il y a tout qui tombe.
Tu vas aller refaire les seins, parce qu'ils tombent un peu.
Non, et je prendrai pas les prothèses de Pamela Anderson, calmez-vous.
Elle s'en fout.
La chirurgie esthétique, il y a beaucoup à dire. C'est un sujet à la fois sérieux et très drôle. Alors moi, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique.
Non.
Oui, parce que je suis né avec ce qu'on appelle des angioplans.
Ah,
c'est
oui.
des taches rouges toutes plates.
D'accord.
Qui sont absolument pas nocives. C'est complètement aléatoire. Les gens peuvent l'avoir dans le dos, etc. Je les avais notamment en bas du visage et dans le cou. Et donc, je me suis fait retirer. Oui. C'était malheureusement les tout débuts. Donc, j'ai attendu un petit peu. Je crois que c'était en 80, 82. J'avais 15, 16 ans. Et c'est une chirurgie qui s'apparente à la chirurgie réparatrice.
Voilà, exactement.
Voilà. Mais la chirurgie esthétique, moi, j'ai des souvenirs familiaux avec mes enfants. Et mon épouse désopilant en voyage, notamment dans le milieu américain, parce que on voit parfois des gens des femmes en particulier, qui ont eu affaire à la chirurgie esthétique, mais au début de la chirurgie esthétique. Ouais. Et en fait, c'est une catastrophe. Ça se casse la gueule de partout. Il y a des lèvres comme Bugs Bunny. Enfin, c'est fantastique.
C'est
Daffy
encore,
Duck.
Hein.
Par contre, j'aurais une pensée pour Louis Gerbier quand même, qui devrait se faire bientôt greffer sa deuxième testicule. Donc, pensée pour Louis Gerbier.
Alerte Sarcom.
Mais ce qui est dommage, excusez-moi. Ce qui est très inquiétant là-dedans, c'est que ce soit des jeunes. Ce soit des jeunes femmes qui recourent à des injections. C'est ça qui est dangereux, les jeunes femmes qui ont recours à des injections. Et en plus, avec les réseaux sociaux.
Des gamines de 16 ans qui veulent faire des poitrines.
Ça, c'est très grave.
En fait.
Ça, c'est très grave.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le voyage de Ségolène Royal à Alger. Elle, depuis un mois, elle est à la tête de l'association France-Algérie. Alors, elle est allée plaider la réconciliation avec le président Tebboune, le respect de la solidarité nationale, la souveraineté nationale. Mais à aucun moment, elle n'a parlé de Christophe Glaize. Est-ce que c'est le voyage de la honte? Vous venez en discuter avec nous au 32-16, il est 10h05.
RMC, 9h, midi. Les grandes gueules.